La science, c'est QFD. Antoine Beauchamp.
Au 19e siècle, s'ouvrait à Paris un musée des maladies d'un genre nouveau autour de la collection d'anatomopathologie du docteur Dupuytren. On vous raconte son histoire aujourd'hui. La collection, entre autres objets de moulage et d'échantillons constitués par Guillaume Dupuytren, se loge à la frontière poreuse entre art et science, entre cabinet de curiosité et lieu d'enseignement. Et c'est avec elle toute l'histoire, parfois crue, du savoir médical qui s'incarne. Souvent réduite au statut grossier de musée des horreurs, la collection Dupuytren est plus qu'un objet spectaculaire. Elle nous met face à l'évolution de la médecine et nous pose finalement une question très large. Comment notre imaginaire de la maladie a-t-il évolué au cours des derniers siècles? Dupuytren, anatomie d'une collection. Bonjour Julie Cheminot.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à Sorbonne Université. Et bonjour Claire Crignon.
Bonjour.
Vous êtes professeure en histoire et philosophie des sciences médicales à l'Université de Lorraine, au laboratoire archives.carré. Vous dirigez toutes les deux un très bel ouvrage collectif qui s'intitule « Dupuytren ou le musée des maladies ». C'est paru aux éditions Sorbonne Université Presse. Vous pouvez bien sûr nous suivre en direct sur notre fil Twitter à sciencescqfd pour retrouver tous les liens vers les articles et livres qui nous ont servi à préparer cette émission. Et pour commencer cette émission, justement, on ouvre l'armoire aux archives, direction l'année 1951 et l'émission de l'ORTF L'Heure de Culture Française, où l'on ébauchait un portrait quelque peu élogieux du docteur Guillaume Dupuytren.
Durant 20 ans, Dupuytren va prodiguer un magnifique enseignement. Son auditoire est immense, étudiants, médecins, chirurgiens, praticiens étrangers venus des quatre coins du monde. La méthode et la clarté sont les qualités dominantes de cet enseignement. Rapidement, l'autorité et le prestige de Dupuytren deviennent immenses. Le grand public lui-même l'auréole d'une sorte de légende. C'est un prestigieux acteur de la chirurgie. Pourtant, si l'on considère aujourd'hui, avec plus d'un siècle de recul, son œuvre, elle nous apparaît assez mince. Quel est en effet son héritage? Il lisait peu et écrivait encore moins. Ce sont ses élèves qui ont conservé ses leçons. Il reste de lui la fracture de Dupuytren, fracture des os de la jambe au tiers inférieur, la rétraction palmaire de Dupuytren et la résection des maxillaires qui est en définitive son unique intervention glorieuse. Ces instruments nous apparaissent désuets et s'il a créé l'entérotome, appareil destiné à explorer l'intestin, on ne l'utilise plus aujourd'hui. Pourquoi donc cet homme a-t-il dominé son temps et pourquoi nous apparaît-il encore entouré d'un immense prestige?
Oui, Claire Crignon, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dupuytren nous a laissé son nom alors que finalement, comme le disait très bien cette archive, son héritage reste assez modeste?
Oui, alors c'est vrai que c'est assez surprenant parce que finalement il a donné son nom à cette collection et au musée, mais pour des raisons qui sont assez circonstancielles, c'est-à-dire qu'en réalité Guillaume Dupuytren, c'est quelqu'un qui arrive de province, hein. C'est son père qui a décidé qu'il allait devenir chirurgien. Et puis de fil en aiguille, il se met à donner des leçons particulières, il se met à gagner de l'argent avec ça, à attirer pas mal d'étudiants, et il amasse une certaine fortune. Pour des raisons que je ne pourrais pas expliquer, il devient finalement assez... il est apprécié au niveau politique par le pouvoir en place. Il va devenir médecin aussi de Charles X, il va participer à l'embaumement de Louis XVIII, et donc finalement il se met à amasser une fortune assez considérable et il va décider de léguer une partie de sa fortune, une somme de 200 000 francs à l'époque, ce qui est important, pour constituer cette collection donc qui va donner lieu au musée Dupuytren. Mais effectivement, ça n'est pas un grand nom de l'histoire de la médecine, c'est quelqu'un qui a bien manœuvré, qui a bien évolué dans ce milieu de l'après-révolution et qui a réussi à faire fortune et surtout à constituer ce lieu et à constituer cette collection.
Julie Cheminot, est-ce qu'on peut situer quand même dans l'histoire des sciences ce Dupuytren? Qu'est-ce qui change au tournant du 19e siècle en matière de pratique et de recherche entre guillemets médicale et comment lui finalement sa collection va s'inscrire dans ce changement-là?
Alors oui, effectivement, il y a vraiment une nouveauté, quelque chose qui a marqué la collection Dupuytren, le musée Dupuytren à l'origine ne peut se comprendre que dans ce contexte. C'est la naissance de l'anatomie pathologique et aussi la naissance de la clinique de manière générale, hein, pour reprendre le titre de Foucault, de l'ouvrage de Foucault, Naissance de la clinique, qui est paru en 1963. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une restructuration des institutions et du savoir médical qui donne sa première place à la visibilité et à une observation qui nous semble une évidence aujourd'hui, hein, où on date de la médecine moderne de cette époque-là. Donc, importance de la visibilité et médecine plus empirique, et donc de ce fait, nécessité d'observer et de garder aussi des traces des différentes pathologies. Donc, c'est vraiment dans ce contexte qu'on peut comprendre la naissance de la collection, la naissance de cette approche empirique particulière.
Claire Crignon, à ce tournant du 19e siècle en matière de médecine, voir, ça revient à savoir.
Alors, en fait, Dupuytren, c'est quelqu'un qui se situe dans l'héritage de Bichat. Il récupère un petit peu, il capte l'héritage de Bichat qui décède en 1801. Et il se rend compte que l'anatomie pathologique est un domaine qui est très important. Il veut en faire une véritable science.
De quoi on parle concrètement quand on parle d'anatomie pathologique, d'anatomopathologie ?
Alors, on parle en fait de mettre en relation l'observation des lésions du corps produites par les maladies et les causes des maladies. Et surtout, ce qu'on fait aussi, c'est mettre en relation cette observation avec la pratique de l'autopsie, avec l'ouverture des cadavres. Et à cette époque, au début du 19e siècle, l'accès au corps reste encore compliqué. Il n'est pas évident pour les étudiants en médecine à cette époque d'accéder à la pratique de l'autopsie. Ils doivent souvent payer de leur propre poche pour y accéder, par des leçons particulières. C'est aussi par ce biais-là que Dupuytren a fait fortune, en fait. Et la constitution d'une collection, en fait, c'est justement un moyen de donner aux étudiants l'accès à des artefacts qui vont leur permettre d'étudier les lésions et de comprendre les causes de la maladie en contournant l'obstacle que constitue tout simplement la corruption du corps qui, une fois mort,
se désagrège
très rapidement. Mmh. Et puis, ça suscite aussi un certain dégoût, une certaine répulsion, y compris pour les médecins. Hein, donc, on sait par exemple que parmi les élèves de Dupuytren, il y a quelqu'un comme Cruveillé, qui va jouer aussi un rôle important pour la collection, on a des écrits qui témoignent du fait que c'était quelqu'un qui était particulièrement heurté par le rapport au corps mort. Et donc, avoir des artefacts, que ce soit des spécimens en cire ou des moulages, etc., c'est aussi une manière, finalement, de pouvoir observer les lésions en contournant ces difficultés et ce dégoût.
Julie Cheminin.
Oui, et ce qu'on doit ajouter aussi, c'est qu'il y a quelques cas qui sont remarquables, hein, donc des pathologies qu'on ne retrouve pas souvent. Donc, il s'agit aussi vraiment de les mettre en avant, de les conserver de la même manière pour diffuser le savoir, pour l'enseignement de manière générale. C'était vraiment le rôle des collections anatomiques. De ce fait, les collections anatomiques et le musée Dupuytren, qui a la spécificité d'être intégralement pathologique, hein, ce qui est aussi un tournant par rapport à d'autres collections d'anatomie plus anciennes, les collections d'anatomie, notamment pathologique, permettent une mise en vitrine des pathologies, donc un classement, un ordonnancement. Donc on a effectivement ce voir adossé au savoir ou ce savoir adossé au voir, c'est-à-dire qu'on voit et qu'on doit avoir une sorte d'évidence des symptômes avec le nom, l'étiquette en dessous qui permet de comprendre voilà les différents cas, d'où le fait que on a aussi quelques monstres, des cas particulièrement impressionnants, hein, dans la collection, et là, elle doit vraiment se comprendre dans une collection, hein, avec vraiment cet ensemble, cette volonté d'exhaustivité, hein, volonté bien sûr, hein, seulement dans les différentes pièces.
Mais la collection Dupuytren, Claire Crignon, ça n'est pas qu'un cabinet de curiosité où on peut voir effectivement des cas un peu monstrueux entre guillemets, c'est une vraie collection avec beaucoup d'objets, pas que des organes malades dans du formol ou des cires de pathologies rares. Il y a plein d'autres éléments. Alors dites-nous, de quoi se constitue concrètement cette collection ?
Alors effectivement, il n'y a pas que des spécimens anatomiques. Bon, déjà il y a des spécimens osseux, il y a des fœtus conservés dans des bocaux, mais il y a aussi des instruments, il y a aussi des données conservées. Par exemple, il y a toute la collection qui a été constituée par les époux d'Egerine, qui ont étudié toutes les maladies du système nerveux. Donc on a des photographies, on a des gravures, on a des peintures. on a des outils, des instruments qui servaient aux chirurgiens. Par exemple, il y a une figure de médecin importante aussi qui est rattachée à la collection, c'est celle de Laennec, qui va mettre au point le stéthoscope. On a tous ces outils médicaux, puis on a aussi les objets qui sont parfois à l'origine du décès de certaines personnes. Donc, par exemple, une pipe qui a été avalée malencontreusement, une épée qui a traversé le crâne d'un soldat. On a un petit peu une espèce d'univers surréaliste, en fait, hein, qui nous permet d'accéder, hein, d'une certaine manière, à la vie des individus au 19e siècle, à la société de cette époque-là aussi.
C'est ça, c'est une espèce d'instantané de cette époque-là, avec toutes ces façons de faire aussi. Julie Cheminot, à qui sont destinés ces objets présents dans la collection Dupuytren au moment où elle se constitue? Est-ce que c'est à l'origine exclusivement dédié à des médecins, à des étudiants en médecine, ou bien très vite ça devient un objet public?
Alors à l'origine, effectivement, c'est une collection qui est médicale, et les musées d'anatomie du 19e siècle justement marquent aussi une différence par rapport aux collections précédentes qui ressemblaient davantage au cabinet de curiosité, hein, comme vous l'avez mentionné, même si on peut encore avoir un peu cette impression face à la collection Dupuytren. Il y a vraiment une volonté d'objectiver, de montrer le savoir médical. Donc c'est destiné avant tout aux médecins et aux étudiants en médecine, hein, pour donc cette capacité d'enseignement. Mais la spécificité du musée Dupuytren et aussi du musée des cires dermatologiques de l'hôpital Saint-Louis, bon, c'est un peu plus tardif, hein, c'est à la fin du 19e siècle, pour rester à Paris, c'est que en fait elles vont assez vite s'ouvrir à un public beaucoup plus large. Donc il va y avoir, faut aussi savoir qu'à cette époque, le milieu des médecins, notamment à Paris, les médecins se fréquentaient aussi des artistes, des écrivains, des hommes du monde, et donc de ce fait, le musée Dupuytren va également être visité par différents individus, pas n'importe qui non plus, hein, bien sûr, hein, mais il va y avoir une sorte de diffusion comme cela, une ouverture en tout cas.
On va revenir à la muséification et en tout cas à la mise à disposition du public de cette collection très rapidement en 1835. Mais avant ça, Claire Crignon, j'aimerais comprendre si on prend quelques objets très emblématiques quand même de la collection, comme les cires qui sont très très impressionnantes. Comment est-ce que c'était fabriqué et pourquoi est-ce qu'elles ont été aussi bien conservées? Est-ce que c'est des travaux d'orfèvre d'une certaine façon?
Voilà, je préfère laisser Julie intervenir sur cette question.
Oui, alors les cires anatomiques, il y en a quelques-unes, hein, qui sont effectivement particulièrement impressionnantes et de très très belle qualité au musée Dupuytren, et qui sont de ce fait aujourd'hui aussi plus étudiées par des historiens d'art, hein, que par des historiens, enfin aussi par des historiens de la médecine, mais il y a vraiment une valeur plastique importante. Il y a une centaine de cires et de plâtres, hein, dont celle de André-Pierre Pinson et de Jean-Baptiste et Jacques Talric. André-Pierre Pinson en particulier est vraiment un très grand céroplasticien. Donc pour vous dire comment c'est fait, on ne sait pas en fait, parce que c'était vraiment un travail d'une... Ouais, c'est ça. Hein, donc vraiment un travail d'une... alors évidemment, ce sont des moulages, hein, à l'origine, donc il s'agit de détecter les patients pour lesquels on a besoin de garder cette empreinte et aussi cette valeur tactile, hein, qu'il peut y avoir avec la cire. Sur les techniques spécifiques, pour en avoir d'une aussi grande qualité, on est vraiment du côté de l'art.
Mystère donc.
France Culture, la science CQFD. Antoine Beauchamp.
Claire Crignon, j'évoquais à l'instant le fait, tout à l'heure, le fait que assez rapidement la collection Dupuytren devient accessible au grand public et devient un musée. Alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit d'un humain qui vit en 2023 que de parler d'un musée grand public? Est-ce que c'était quand même un public très averti, ou bien est-ce que tout le monde pouvait rentrer dans ce musée Dupuytren?
Alors, on n'est pas revenu sur le moment précis où le musée s'est constitué. Je vais juste en dire un mot parce que ça me paraît important. En fait, c'est en 1835, donc au moment de la mort du Dupuytren, il y a un accord qui est passé entre la Société anatomique de Paris et le doyen de la faculté de médecine, qui s'appelle Mathieu Orfila, qui est un médecin légiste. Et l'accord, en fait, consiste à dire que les étudiants en médecine qui présentent un spécimen pour pouvoir être admis au sein de la Société anatomique de Paris, en échange, en fait, permettre de... Enfin, le doyen va octroyer un local pour ses présentations, il va donner un local à la société anatomique, et en échange, les étudiants vont s'engager à déposer la pièce qu'ils présentent pour cet examen, et à la déposer donc au sein de ce qui va constituer le musée. Donc, au départ, on est vraiment dans ce contexte qui est réglementé, mais avec un accord, en fait, assez simple, et c'est ça qui va rendre possible la constitution du musée. Et puis au fil des années, donc là peut-être que ma collègue Julie pourra compléter, au fil des années, en fait il y a aussi un échange qui s'effectue entre des pièces qui sont conservées par des collectionneurs et parfois par des gens, des individus, des profanes, hein, des gens très simples, des sages-femmes, etc., qui finalement conservent des fœtus dans le formol, conservent des pièces, des spécimens, et qui progressivement vont verser ces pièces au sein du musée. Et donc, on va assister progressivement à une espèce de popularisation de la collection. Et il y a aussi des pièces du musée qui vont atterrir dans des foires en fait populaires, hein, et donc qui vont finalement être montrées pour des raisons évidemment qui sont pas forcément scientifiques.
Julie voilà. Cheminot.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a une grande importance au 19e siècle de champs de foire. On avait des musées qui présentaient sous des arguments d'éducation, d'édification, voilà, pour prévenir notamment le péril vénérien. Hein, la syphilis était particulièrement importante à cette époque-là. Et donc, sur les foires, comme on pouvait avoir aussi les zoos humains, hein, comme on a pu, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus connu, il y avait des cabinets pseudo-médicaux où il y avait des pièces qui étaient quelquefois les mêmes, hein, que celles davantage les cires, hein, pour le coup, des pièces qui étaient les mêmes que celles qu'on pouvait trouver dans les musées, disons classiques, les collections destinées à l'enseignement de la médecine. Voilà, donc les plus connus, hein, alors en France, c'est le musée du docteur Spitzner, hein, qui a été créé en 1856, et quelques années avant, en Angleterre, le musée du docteur Joseph Kahn, en 1851. Voilà, donc là, c'est vraiment ouvert au grand public. Hein, celle-là, on est vraiment dans l'ouverture au grand public, avec tout de même certaines sections réservées aux hommes, voilà, et à partir d'un certain âge, je ne me rappelle plus exactement quel âge c'est d'ailleurs, mais voilà, où du coup on flirte là entre voilà, l'attrait pour l'horreur, l'éducation tout de même, et puis des fins de prévention aussi, et puis un petit peu d'attirance pour de l'obscène.
Claire Crignon, voilà, c'est aussi tout un contexte de pensée et un contexte créatif, puisque c'est pas pour rien non plus que le 19e siècle va pondre par exemple le romantisme qui a des fascinations comme Baudelaire par exemple pour la charogne et pour la beauté, enfin tout ça se mélange un petit peu, le grotesque aussi chez Hugo, tout ça finalement est dans l'art et dans la recherche scientifique s'entremêle. Est-ce que ça aussi c'est un des aspects complexes à étudier quand on parle de la médecine au 19e siècle, cet aspect très imbriqué entre vie intellectuelle créative et vie et recherche scientifique?
Ben oui, on sait qu'il y a des écrivains, des sculpteurs qui ont fréquenté la collection, Rodin en particulier, Flaubert aussi, qui s'intéressait beaucoup à la médecine. Donc dans l'ouvrage qu'on publie, il y a des articles qui portent plus précisément sur les échanges entre littérature, entre les écrivains et la collection. Mais justement, c'est ça qui est intéressant dans cette collection, c'est finalement de voir un petit peu tout l'imaginaire qu'elle a pu susciter et les écrits auxquels elle a pu donner lieu et la manière dont les écrivains ou les artistes y renvoient, puisqu'effectivement, très vite, il y a des artistes qui vont venir visiter la collection avec des étudiants et dessiner les spécimens. Mais bon, là, je pense que Julie pourra en dire plus que moi.
Donc effectivement, il y a énormément d'artistes qui se sont inspirés de ces collections dès cette époque. Donc c'est aussi lié à cette ouverture, à cette confusion, enfin, disons ce flou, hein, qu'il peut y avoir entre les collections spécifiquement médicales et celles qui étaient sur les champs de foire. Et donc voilà, comme Claire l'a mentionné, hein, Flaubert, Rodin, mais aussi Zola, Balzac. Zola par exemple, quand il a voulu décrire, hein, l'agonie de Nana, Nana, dans son roman Nana, il a demandé à avoir une cire d'une femme morte de la syphilis, hein, pour pouvoir justement avoir cette précision. Donc effectivement, il y a une source d'inspiration vraiment par rapport à ça. Et ce qui est particulièrement intéressant par rapport à... Enfin, c'est ce qu'on a voulu proposer aussi dans l'ouvrage. La plupart des contributions vont aussi dans ce sens. Et comme vous le demandiez, enfin, comme vous le proposiez aussi, c'est que s'intéresser précisément à ces pièces, à ces reprises, domaine artistique, mais pas seulement, à la manière dont les pièces sont collectées, à ces échanges divers entre différentes classes sociales, aussi au sein de la société, diverses professions, etc. Ça nous permet d'aller un petit peu, enfin, de remettre un peu en question ce partage des disciplines qu'on peut avoir à penser, et d'essayer de se replonger autant que possible, en tout cas, hein, dans cette période particulière.
Et puis, c'est des changements aussi de façon de penser. Claire Crignon, c'est pas si évident que ça, finalement, au 19e siècle, de mettre en avant et d'exposer au grand jour, un corps malade et non plus un corps parfait, un corps sain qui était souvent l'idéal. Et finalement, la maladie n'était que reléguée dans l'ombre et était peut-être source de honte ou je ne sais pas.
Oui, tout à fait. D'autant que les maladies qui sont représentées au sein de la collection sont, alors heureusement pour la plupart, des maladies qui se sont éloignées de nous, encore que, enfin, en particulier bon, la tuberculose, la syphilis, etc. Mais donc, bien sûr, il y a une certaine... ce sont des maladies qui sont associées à des souffrances aussi et qui sont aussi associées à des individus au sein de la société comme des prostituées, des ouvriers, des gens assez modestes en fait. Hein, donc ça c'est une première chose. Et puis par ailleurs effectivement, bah, comme vous le disiez, par rapport à l'anatomie, à l'essor de l'anatomie en particulier au XVIe ou même jusqu'au début du XVIIe siècle où dans les traités d'anatomie on célèbre un corps parfait, où l'homme a cette fonction d'être le microcosme du macrocosme. Là, on est vraiment centré sur la pathologie. Et donc, d'une certaine manière, ça nous renvoie aussi à la question du rapport qu'on peut avoir à la maladie, à la question du rapport à la mort, à la souffrance. Et c'est ça aussi qu'on a voulu mettre en avant dans cet ouvrage, parce que finalement, il fait ressurgir un peu toute cette question des souffrances, des maladies qui ont pu affecter une population. Il y a par exemple le cas auquel on s'est consacré de cette femme qui a connu une succession de grossesses extrêmement rapprochées et qui en fait est conservée au sein de la collection sous la forme d'un squelette complètement avachi. On a du mal à se représenter comment c'est possible en fait.
D'être en vie encore dans cet état-là.
À cet état-là. Et donc on a essayé de montrer justement comment ce cas-là, donc cette femme Supio qui en fait était tout simplement atteinte d'une carence en vitamine C, donc c'est un problème aujourd'hui qu'on peut résoudre très facilement en prenant de la vitamine C. On a essayé de montrer comment justement ce cas-là avait suscité une espèce de fascination du corps médical et une espèce de discours un peu idéalisant sur une femme sainte qui surmonte ses souffrances, qui décide d'elle-même de léguer son corps à la science, etc. Tous les clichés, toutes les représentations qu'on peut avoir autour de comment est-ce qu'on supporte la souffrance quand on est une femme et comment on supporte les douleurs de l'enfantement, ça permet de poser ce type de questions.
Cette collection du Dupuytren est elle-même un instantané aussi de l'histoire de ces maladies auxquelles on était confrontés au 19e siècle, comme vous le suggériez Claire Crignon, mais aussi des maladies qui ont disparu. Donc c'est aussi un précieux témoignage de ce passé. Ça nous confronte aussi à toutes ces maladies auxquelles on pouvait être confronté à cette époque-là. L'imaginaire médical, Julie Cheminot, au cours du 19e siècle, il évolue beaucoup. On passe du macro au micro. Entre le début du 19e siècle, finalement, et la fin du 19e siècle, on découvre les microbes, les cellules, ce genre de choses. Alors ça, quelles conséquences ça va avoir aussi sur ce type de collection scientifique? Est-ce que, finalement, la collection Dupuytren, entre sa création et la fin du 19e siècle, elle était déjà un petit peu désuète?
Alors, il y a effectivement une évolution particulièrement importante au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, qui rend la collection Dupuytren, qui est vraiment d'anatomie pathologique, hein, on l'aura compris, à la limite de la désuétude, en tout cas qui marque un petit peu son déclin, c'est ce qu'on pense souvent comme un basculement à la médecine de laboratoire. Il y a l'expérimentation. Et je crois que de ce fait, on a aussi quelques contributions, hein, dans l'ouvrage qui reviennent un petit peu sur ce passage, qui le réinterrogent. Il n'y a jamais de rupture hein, aussi précise que ça, effectivement, que ça soit en science ou ailleurs. Ça permet de comprendre comment les questions de collecte ont pu petit à petit se voir. C'est-à-dire qu'on a aussi des dessins de cellules hein, aussi hein, dans la collection. Hein, donc, on n'a pas de cellules forcément dans les vitrines, ça serait difficile, mais il y a aussi des dessins. Et donc, c'est ce basculement à d'autres modèles médicaux qui fait que cette visibilité n'est plus aussi importante et qu'il va y avoir moins d'intérêt pour la collection.
Comme toutes les sciences, Claire Cagnon, la médecine a énormément évolué entre le 19e et notre époque, entre le 19e siècle et le 21e siècle. Au 20e siècle, qu'est-ce qui va faire que vraiment cette collection-là va être reléguée un peu de côté et qu'on va passer à autre chose?
La grande évolution, c'est qu'effectivement, on n'a plus besoin finalement de disposer d'organes entiers pour essayer de comprendre les causes d'une maladie. On va passer à un niveau moléculaire, on va aussi développer l'immunologie, et puis on va développer l'imagerie médicale, et puis aussi évidemment tout le domaine de la génétique. Donc du coup, on n'est plus dans une approche a posteriori où on étudie les lésions sur un organe entier, mais on est dans une approche plutôt en amont, finalement, où on va travailler sur les cellules, identifier des biomarqueurs et être dans une démarche de prévention. Et puis, il y a aussi, évidemment, une désuétude de la pratique de l'autopsie, puisqu'aujourd'hui, par exemple, dans un grand hôpital comme la Pitié-Salpêtrière, c'est une pratique qui n'a quasiment plus cours, en fait, sauf dans des situations qui sont liées à la médecine légale, mais il y a très peu d'autopsies qui sont pratiquées. Justement, aujourd'hui, les gens qui pratiquent et qui enseignent l'anatomie pathologie disent que l'autopsie est une pratique qui est absolument indispensable et que la pratique de l'imagerie cérébrale ne peut pas se fier uniquement aux images. Il y a vraiment des informations qu'on obtient que via l'autopsie. Donc c'est vrai que tout ça explique pourquoi effectivement la collection va assez vite connaître des aléas. Enfin, c'est vrai qu'on a un peu travaillé aussi sur les archives qui sont conservés à Pierrefitte, aux Archives nationales, où on s'aperçoit qu'il y a eu des moments où la collection s'est trouvée dans des situations extrêmement périlleuses, où vraiment les spécimens étaient laissés à l'abandon, les murs s'écroulaient, les pièces ont pu à certains moments être dispersées dans différents hôpitaux, différents lieux, différentes villes même, puisqu'il y a une partie de la collection qui est maintenant à Montpellier. Mmh.
À la faculté de médecine de Montpellier.
À la faculté de médecine de Montpellier. Mmh. Donc, il y a eu vraiment, ça n'a pas été simple finalement de conserver cette collection jusqu'à aujourd'hui et de pouvoir faire quelque chose de ce musée.
Et ce qui est paradoxal, Julie Cheminot, c'est qu'on s'est désintéressé de cette collection, on l'a un petit peu laissé de côté. Et quand on l'a retrouvée, on s'est posé des questions avec des regards actualisés sur ces objets-là, comment ils ont été prélevés et qui nous ont mené à des questions d'éthique. Comment est-ce que tout ça avait été fabriqué, créé, prélevé sur qui? Ça, c'est ce qui fait que la collection Dupuytren a toujours eu ce statut un petit peu sulfureux, et encore aujourd'hui. Et on ne sait pas vraiment comment la qualifier, comment quoi en faire finalement.
Oui, tout à fait. Les questions éthiques, donc comme l'a rappelé Claire Crignon, effectivement, l'évolution de la médecine qui fait qu'on se dit qu'on n'a plus besoin de ça, que ça se passe par vraiment par d'autres biais, mais il y a aussi l'enjeu éthique particulièrement important. Question qui a pu commencer à se poser, notamment pour la préservation des restes humains. Question qui a pu se poser déjà dès le début du 19e siècle, mais qui est devenue beaucoup plus important fin 19e et puis ensuite au 20e siècle, est-ce qu'on a le droit de garder ces restes humains, de les présenter, d'autant plus que le consentement n'est pas toujours clair. Donc ça, c'est vraiment des enjeux particulièrement compliqués. Donc on aborde aussi, des contributeurs abordent aussi à plusieurs reprises ces enjeux par rapport à la question de la déontologie, du patrimoine aussi. C'est une question assez complexe. Et c'est aussi cette question de la dignité et de ce côté musée des horreurs que vous avez rappelé, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus, à la limite vraiment de l'immoralité, qui a conduit à la fermeture justement de ces musées dans les champs de foire que j'évoquais tout à l'heure. Le musée Dupuytren, de la même manière, est resté, comme l'a dit aussi rappelé aussi Claire Quignon, dans des conditions qui n'étaient pas toujours adéquates, avec vraiment des pièces qui commencèrent à se désagréger, une sorte de fouillis, hein, c'était vraiment un fouillis aussi à l'origine, et donc avec cette difficulté de voir ces pièces qui ne servent plus à grand chose et qui n'attirent peut-être que des regards pervers. En tout cas, c'est comme ça qu'on a pu le penser.
Claire Crignon, sur cette dimension éthique de cet objet qu'est la collection Dupuytren, qui est passé de statut d'objet scientifique à un objet patrimonial un peu encombrant finalement, qu'est-ce que vous avez à en dire?
Alors, il y a aussi un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il y a beaucoup de pièces qui viennent des colonies. Donc, il y a toute l'histoire coloniale hein, qui est en jeu. Et donc, il y a eu des débats un peu similaires à ceux qu'on a pu entendre au sujet de la restitution des têtes maoris, ou voilà, un certain nombre de corps qui ont été ramenés par des médecins militaires au sein de la collection. Évidemment, en l'absence totale du consentement des personnes, mais cette notion de consentement, en fait, n'avait pas lieu d'être à cette époque-là. C'est-à-dire que finalement, on s'interrogeait plus sur le consentement des médecins et l'acceptation d'une société à recevoir des pièces, mais on ne s'interrogeait jamais sur le fait de savoir si des individus pouvaient consentir à léguer ou à donner leur corps. Et donc, même encore il y a quelques semaines, il a été fait référence au cas d'un géant qui avait été conservé au sein de la Hunterian Collection à Londres.
Irlandais.
C'est ça, et qui, de son vivant, avait dit qu'il ne souhaitait pas qu'on conserve son corps. Et je crois que ça n'est que depuis quelques semaines, en fait, que sa volonté a été exaucée. Donc ça, évidemment, il y a eu énormément de débats à cause de ça. Et puis aussi, il y a eu, en 2005, il y a eu l'affaire de la découverte des fœtus à Saint-Vincent-de-Paul, hein, qui a donné lieu à un avis du Comité consultatif national d'éthique, qui a clairement dit qu'il n'était plus possible de conserver des restes de fœtus qu'on pouvait soit identifier en partie, soit totalement. Mais cet avis du Comité national d'éthique, ça s'étend aussi aux collections. Qui ont été considérées comme obsolètes et donc aussi inutiles d'un point de vue scientifique, ce qui est un point dont on peut discuter.
Obsolète et contraire à l'éthique, je crois que c'était le mot exact de ce rapport du Conseil du Comité consultatif national d'éthique. La collection Dupuytren, on le comprend, est donc invisible aujourd'hui au grand public. Quand on est chercheur, il faut faire la demande pour pouvoir y accéder. Et nous, comme on s'appelle la science CQFD qu'on est France Culture, on a eu la chance de pousser la porte de cette collection. Restez avec nous, ce sera dans un instant.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. On n'est pas que dans les chansons. Poupée de cire, poupée de son. Que chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son.
Poupée de cire, poupée de son par France Gall dans La Science CQFD sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de curieuses poupées de cire et de l'histoire de la collection du Puitrin. Nous en parlons avec Julie Cheminot, maîtresse de conférence en philosophie à Sorbonne Université. Et avec nous également Claire Crignon, professeure en histoire et philosophie des sciences médicales à l'Université de Lorraine au laboratoire. Archive.carré. Je le disais avant la musique, le musée du Puitrin n'existe plus en tant que tel depuis 2016 et est invisible aux yeux du grand public, mais l'ensemble des pièces a pu être rassemblé et préservé dans un espace sécurisé à Sorbonne Université à Paris. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Antoine.
Pour le reportage du jour, vous êtes parti ouvrir les très lourdes portes qui dissimulent désormais cette collection aux yeux du grand public.
Et oui, aux côtés d'Héloïse Quettel, qui en est la responsable, et Rémi Gaillard, directeur adjoint de la bibliothèque. Alors ensemble, on a sillonné une partie des rayonnages de la réserve, riche de 15 000 pièces aux typologies variées, ossements, cires, organes, membres ou fluides. Une collection foisonnante et valorisée grâce à l'expertise d'Héloïse Quettel en matière de conservation et restauration et qui, au-delà de sa valeur patrimoniale, apparaissent comme une véritable ressource pour la recherche biomédicale.
Est-ce que cet environnement ne vous incommode pas ?
Pas du tout. Absolument pas.
Dans la réserve où nous sommes, on a sur la totalité des typologies représentées donc des cires anatomiques, de l'instrumentation, ce que l'on appelle des pièces sèches, donc ce sont des préparations ostéologiques ou des préparations anatomiques. Pour l'une, on a uniquement de l'os et pour l'autre, on a un ajout de préparations de tissus mous qui peuvent être le cartilage, le tendon ou les muscles. Alors justement ici, on a le squelette d'une jeune femme de 28 ans, un squelette qui est extrêmement compacté, c'est-à-dire que l'on constate que la forme de la colonne vertébrale est écrasée sur elle-même. La taille des os longs est particulièrement raccourcie, donc ça c'est des signes évidents sur la question du rachitisme. Et devant, on a une pièce assez intéressante aussi, c'est une calotte crânienne. La particularité de cette calotte crânienne, qui paraît assez basique, c'est qu'il s'agit de celle de Louis-Vincent Le Borgne, dit Tantan, qui est le cas qui a permis à Paul-Pierre Broca, anthropologue neuro-anatomiste de renom, de définir l'aphasie, et donc l'ère de Broca, donc l'ère du langage. Et il est reconnu que le musée du Puitrin conserve le cerveau de Louis-Vincent Le Borgne depuis que Paul-Pierre Broca l'a déposé au musée. Mais le transfert de ces collections osseuses nous a justement permis de retrouver la calotte crânienne dont on avait oublié l'existence.
Alors après, il y a un projet de reconstitution faciale d'un soldat de Napoléon qui est représenté dans les collections.
Je crois que ça dit quelque chose.
Alors oui, justement, ici, on se retrouve face à un crâne qui nous présente justement une baguette de fusil, une baguette en métal qui lui a traversé le crâne. Donc on observe 2 cm de baguette qui sortent justement au niveau du front, quasiment
entre
exactement.
Les deux yeux, ouais,
exactement. Et qui ressort à l'arrière.
Ah oui, il était très transparent.
Pas très loin de l'occipital, voilà, du trou occipital. Ce personnage, il a une histoire très singulière, c'est que c'était un jeune homme qui revenait de l'entraînement au tir au fusil et qui, sur la route du retour, par jeu avec son compagnon d'armes, ils font semblant de se tirer dessus. Et malheureusement, le compagnon d'armes avait laissé la baguette dans son fusil après l'avoir nettoyée. Et donc la baguette part et traverse le crâne de cet individu qui historiquement, et en tout cas dans les traces écrites que l'on a au sein de la collection, s'appelle ou s'appelait Christophe Cros. Donc dans un premier temps, nous, ce que l'on a fait, c'est une numérisation 3D du crâne. Et puis avec l'Institut du calcul et des sciences de la donnée, on leur a fourni justement cette numérisation 3D, ce qui leur a permis à eux d'effectuer un travail de reconstruction faciale pour justement pouvoir véritablement redonner une identité à cet individu. Voilà, donc un projet très excitant.
Ah oui, donc là, on a juste traversé le couloir et on se retrouve dans les rayonnages des fluides.
Exactement. Donc,
autre ambiance.
C'est ça.
J'ai envie de dire, tout est assez impressionnant. Là, on est dans un rayonnage de mains.
Ouais.
Mais on a envie de toutes les décrire tellement elles sont singulières les unes des autres.
Bah là, face à vous, vous avez une pièce particulière.
Gangrène de radiodermite.
Ouais, vous avez une main gauche qui présente une gangrène, donc sur le dos de la main, on a une excroissance gangréneuse, et c'était donc la main d'un rhumatologue, ou de ce qu'on qualifierait aujourd'hui comme étant un radiologue. Et donc la particularité de cette pièce, c'est qu'elle montre le travail douloureux du rhumatologue à cette époque-là, c'est-à-dire qu'au moment où Wilhelm Röntgen découvre les rayons X en 1895, on va mettre près d'un demi-siècle à mettre en place la totalité des protections efficaces à ce que les techniciens qui travaillent quotidiennement avec les rayons prennent pas justement des quantités de rayons quotidiennes.
Elle est assez impressionnante, cette gangrène, déjà très sombre.
Ça ressemble vraiment à une brûlure très importante sur le dos de la main.
Circulaire,
oui. Et ici, on a une des pièces qui est un peu une des pièces majeures de la collection, qui complète la boîte crânienne que l'on a vue dans l'autre espace de conservation, donc qui est donc le cerveau de Le Borgne, le cerveau à partir duquel Broca a établi ce premier diagnostic de l'aphasie. Là aussi, elle rend compte de la technicité du travail qui est mené dans les collections, puisque Héloïse a remis le cerveau en fluide, c'est-à-dire a refait les niveaux du bocal, a refait les luttages pour garantir la conservation de la pièce. Et c'est une pièce majeure pour l'histoire de la neurologie, puisque c'est la naissance de la neurologie à travers une pièce du 19e siècle. Et donc, on a très régulièrement des demandes de neurologues du monde entier. Et c'est aussi une pièce très émouvante, puisque là encore, elle raconte l'histoire d'un homme, de sa pathologie, de la manière dont il a interagi avec les médecins qui ont étudié son cas jusqu'à son entrée en collection.
Alors, on se déplace un petit peu dans les couloirs pour aller au sein de mon atelier de travail. Donc au sein de cet espace, on observe un établi avec la totalité du matériel que j'utilise quotidiennement, mais aussi un studio photographique, un statif, tout le matériel pour pouvoir manipuler les pièces.
Ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, on a le sentiment d'un laboratoire un peu hybride parce qu'on trouve des engins mécaniques, optiques, des éléments comme une hotte qu'on retrouve dans les labos de chimie.
Alors c'est exactement ça, c'est que le but c'est vraiment de couvrir la totalité des besoins et comme on a justement une diversité au niveau typologique et au niveau des matières, on est obligé d'avoir une diversité de matériel.
Et donc sur cette table, il y a plein d'engins de garage un peu, des pinceaux, des brosses. Les outils de découpe.
Ici, vous avez vraiment le matériel que j'utilise régulièrement pour pouvoir justement effectuer des interventions de conservation et ou de restauration sur les pièces que je conserve. L'idée globale, c'est de restituer l'identité, l'entité de la pièce. En tout cas, pour moi, le plus valorisant, c'est de vraiment redonner une présence intellectuelle à ce type de collection. Mais surtout les réincarner vis-à-vis d'un public qui a aussi perdu l'habitude de voir ce type de collection, qui s'est un petit peu stérilisé vis-à-vis de ce type de pièces, et leur redonner un accès peut-être plus acceptable, mais en fait tout simplement en leur redonnant les vérités scientifiques en fait.
Voilà pour ce reportage dans les travées de la collection Dupuytren, Claire Crignon. Il y a beaucoup beaucoup d'éléments intéressants dans ce que dit Héloïse Quettel. C'est pas qu'une visite, là on comprend bien l'aspect double de la postérité de cette collection, c'est un patrimoine à conserver, à éventuellement restaurer, et puis c'est aussi une collection qui fait l'objet de consultations encore aujourd'hui par des scientifiques du monde entier.
Oui, tout à fait. Il y a effectivement des demandes qui ont été évoquées dans le domaine de la neurologie, par exemple, mais il y a aussi des demandes qui visent à établir le génome de certaines maladies, par exemple pour la rougeole. Donc, il y a un bassin d'une fillette qui date de 1906 et qui a servi justement à établir ce type de recherche génétique. Et puis après, aujourd'hui, et pour nous qui enseignons, moi j'ai quitté Sorbonne Université, mais j'ai enseigné longtemps au sein de cette université, dans des domaines interdisciplinaires, dans le champ des humanités biomédicales, c'est-à-dire justement que un de nos objectifs, c'est justement de faire en sorte que des étudiants de lettres aillent en faculté de médecine, aillent dans les services, et réciproquement que des étudiants de médecine se forment à l'histoire de leur discipline et fassent aussi l'acquisition d'un regard un peu critique sur leur pratique. Et donc, avec Julie Cheminot, il nous est arrivé d'amener des étudiants de philosophie visiter la collection, avec évidemment la participation active de Héloïse Quettel. Moi, il m'est arrivé, par exemple, de voir une étudiante, pourtant que j'avais avertie, parce qu'on ne les amène pas comme ça sans leur expliquer ce qu'il
faut. Il faut avoir le cœur un peu bien accroché, quand même.
On en retrouvait parfois allongés, étalés entre les rayons, en malaise, parce que
parce que il y a un choc quand même à être confronté à ce type, enfin à la maladie et à la mort, et que on vit quand même dans des sociétés où
stérilisées, disait Louis voilà, Quetel, un peu aseptisées, oui. Où la mort n'existe plus autant qu'au 19e siècle. Et peut-être que voilà, ces objets-là existent parce qu'à cette époque-là, mourir faisait partie de la vie encore plus qu'aujourd'hui. Julie Cheminot, il y a cette dimension aussi du regard qu'on porte sur ces objets-là. Vous vous intéressez à un aspect très délicat de cette collection du Dupuytren, c'est l'aspect esthétique. Comment est-ce que vous allez justement créer des ponts entre une dimension histoire des sciences, histoire de la médecine et une dimension esthétique à travers cette collection?
Oui, alors je rebondirai sur les mêmes termes qui vous ont marqué aussi dans le reportage, et notamment de Héloïse Quetel, hein, contre donc cette invisibilisation, et puis aussi votre collaboratrice qui, en voyant les pièces, a dit elles sont toutes singulières. Et voilà, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est aussi le travail qu'on essaie de faire, le travail donc qu'on a essayé de montrer aussi dans cet ouvrage, aussi par une iconographie hein, qui est particulièrement importante.
Très riche, ouais.
Avec des photographies faites par Christelle Jeanne spécialement pour l'ouvrage, avec beaucoup de d'œuvres autour aussi d'illustrations médicales, d'autres qui montrent tout cet imaginaire hein, qu'on a évoqué depuis tout à l'heure. Et effectivement, voilà, il me semble que cette difficulté, c'est-à-dire que tout ça, c'est sensible, qu'il y a vraiment quelque chose de sensible qui en fait fait partie aussi de la médecine, en tout cas de la médecine telle qu'elle est pratiquée à cette époque. C'est-à-dire que on est revenu sur cette visibilité hein, essentielle, mais cette visibilité, elle est aussi le fait d'une sensibilité et qui fait que on peut rapprocher l'artiste du médecin au début du 19e siècle, que certains artistes ont un regard clinique hein, et que certains médecins se considèrent eux-mêmes comme artistes parce qu'ils savent voir, parce qu'ils sont attentifs aux nuances, parce qu'ils sont attentifs à différentes, vraiment à ces singularités qu'on a essayé de remettre aussi le plus en avant par rapport à tous ces points. Et ça se voit de ce fait. Donc évidemment, c'est compliqué et c'est difficile de dire qu'on peut avoir un plaisir esthétique face à ce type d'objet. Comme l'a dit aussi Claire Crignon, ce sont des pièces qui peuvent être dérangeantes. Puis il y a cet effet d'accumulation aussi, hein, ce qui est vraiment beaucoup. Moi, ce qui m'a marqué aussi, je me permets juste de le préciser par rapport à ça, c'est pour avoir amené aussi des étudiants. Ils sont souvent plus choqués par les cires que par les pièces humides, parce qu'il y a un aspect beaucoup plus réaliste.
Beaucoup plus criant de vérité.
C'est ça.
Alors que justement, c'est en soi une interprétation
alors
déjà.
Ce sont des artefacts, alors qu'avoir un morceau de visage dans un bocal en formol, c'est pas forcément évident. Mais donc c'est vraiment cette confrontation au réel en fait qui se joue là, même si c'est par le biais de représentations, et parce qu'on oublie souvent voilà le corps, la mort, les maladies, et que ce type de collection nous permet de les mettre en avant. Donc il y a plusieurs communications, plusieurs contributions dans l'ouvrage qui reviennent sur ces questions-là pour montrer que oui, il peut y avoir un ça peut être aussi pervers hein, d'ailleurs hein, faut pas le cacher hein, cet intérêt voilà qui peut y avoir
sur un intérêt très voyeur, oui.
C'est ça. Ça peut être voyeur, ça peut être vraiment des singularités très fines, ça peut être quelque chose d'un petit peu plus étrange puisqu'il y a des sirènes, des cyclopes. Aussi dans la collection et les pièces elles-mêmes ne se déparent pas il me semble quelquefois d'une petite mise en scène, c'est-à-dire qu'on a certaines pièces qui sont dans des bocaux avec un petit feutre autour qui sont mises en lumière comme dans les cabinets.
Et ça pose une question cruciale, c'est la question de la mise en scène du savoir. Claire Crignon, est-ce que cette mise en scène là elle a considérablement évolué? Par exemple, moi quand je pense à science et esthétique, aujourd'hui, je pense surtout à des domaines comme l'astrophysique, des très belles images qui nous viennent de très loin. Est-ce que ça, c'est un des propres de l'évolution de l'histoire des sciences, de s'être concentré vers des dimensions beaucoup plus lointaines sur ce point-là, esthétique, justement?
C'est vrai que regarder à l'intérieur du corps, c'est un parallèle qui est souvent fait entre regarder ce qui est loin, regarder l'univers et regarder l'infiniment petit. Ça va pas de soi. Souvent, il y a des médiations quand on regarde à l'intérieur du corps. On regarde avec un microscope ou voilà, on a des instruments. Et là, on a un type de vision un peu différent. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des médecins qui emmènent leurs étudiants au Louvre pour pratiquer l'observation esthétique, pour leur apprendre, en fait, pour parfaire leur sens de l'observation, pour ensuite pouvoir améliorer leur pratique clinique.
Finalement, réincarner aussi ce travail de recherche scientifique.
Et donc ça, c'est ce que font certains médecins à la Pitié-Salpêtrière avec des étudiants en médecine pour justement revenir vraiment à l'exercice de l'acuité visuelle, le sens du détail. Voilà. Et puis, Julie en parlera mieux que moi, mais l'art contemporain est quand même très fortement imprégné de ses références au monde vivant, au monde de la pathologie.
Déjà, les surréalistes y trouvaient un intérêt dans ces notions de cabinet de curiosité. Et puis, bon, il y a quelque chose de... Il y a une résurgence, peut-être, d'une forme de surréalisme aujourd'hui dans l'art contemporain. Ça, je vous laisse, maîtresse, sur cette question-là, Julie Cheminot.
Alors oui, donc on a évoqué un petit peu déjà au 19e siècle l'intérêt qu'il y a pu avoir du côté de certains écrivains, hein, donc surtout naturalistes, mais ça aussi chez les décadents, par exemple chez Jean Lorrain, hein, ou chez vous avez voilà cet intérêt pour disons la pathologie artistique, hein, ou l'esthétique de la pathologie, la vérité du lait. En sculpture aussi, fin 19e siècle, Rops, Delvaux, Mozart, Rodin, on pourrait penser à Odilon Redon aussi pour certains points. Donc voilà, vraiment par rapport à cet imaginaire de l'étrange et de la normale contre justement peut-être une société qui devient de plus en plus normée et on masque de plus en plus toutes ces anormalités. Et effectivement, la part la plus importante finalement qu'on a de reprises et d'échanges beaucoup plus explicites en fait, hein, avec des objets anatomiques, de collections anatomiques, c'est vraiment dans l'art contemporain. Par exemple, chez Hervé Guibert, chez Kiki Smith, chez Witkin, qui est un des plus connus aussi par rapport à ça, avec des photographies particulièrement violentes, mais qui jouent aussi d'un héritage artistique chez Damien Hirst, chez Orlan, bref.
Vous mettez même ces exemples dans l'article que vous signez dans le livre du Puitrin ou le Musée des Maladies. Claire Crignon, aujourd'hui, si on devait trouver une héritière, un héritier direct de cette collection du Puitrin, ce serait quoi? Ce serait des banques de données de bactéries, d'agents pathogènes, des banques de données de virus? Ce serait ça, une collection du Puitrin en 2023?
Alors c'est vrai que dans l'introduction de l'ouvrage, on a établi un petit peu cette filiation, puisqu'en 1984, l'OMS a appelé à la constitution d'une banque de données mondiale sur les virus. Et il y a aujourd'hui cette idée que collecter plutôt les données constitue une manière de prévenir l'apparition de nouvelles pathologies. On a constitué cet ouvrage en pleine pandémie.
Donc, il n'y a pas de hasard.
Voilà, et je pense que c'est pas anodin de le rappeler, parce qu'en réalité, en étudiant ce type de collection, on s'aperçoit que la pathologie, en fait, n'est jamais seule, qu'elle se comprend dans un environnement social, politique, culturel, que derrière, il y a des individus qui souffrent, il y a des rapports entre différents pays, entre différents peuples, il y a des questions d'inégalité à la médecine, en fait, hein, d'accès aux soins. Et toutes ces questions-là, on les voit apparaître en étudiant la collection du Puitrin. Le rapport à l'environnement aussi, le rapport entre les maladies et l'environnement. Et ça, c'est vraiment des questions qui sont aujourd'hui d'actualité. Et cette idée aussi de collecter les données pour pouvoir mieux anticiper les pathologies à venir. Donc ça, c'est par exemple des idées qu'on trouve chez des travaux en anthropologie, comme ceux de Frédéric Keck, qui a beaucoup souligné ce point-là. Ce rapport entre les banques de données et les collections, en fait.
Julie Cheminot, une toute dernière question, et pour conclure très brièvement, quel devenir à cette collection du Puitrin? Est-ce qu'un jour elle reviendra devant les yeux du grand public?
Alors là, le travail consiste vraiment à préserver cette collection en tant que patrimoine, et comme vous l'avez saisi aussi avec son intérêt scientifique pour certains chercheurs. Et évidemment, il y a un enjeu de valorisation, hein, par rapport à cette collection, et donc une réflexion en cours, mais encore faut-il avoir les moyens pour pouvoir l'exposer dans les meilleures conditions.
Merci beaucoup à toutes les deux, Julie Cheminot, Claire Crignon. Je rappelle le titre de votre livre, Du Puitrin, le musée des maladies. C'est extrêmement beau, extrêmement riche. Allez le lire, c'est paru aux éditions Sorbonne Université Presse. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver la chronique d'Étienne Klein, le pourquoi du comment.
Pourquoi l'expression « inverser la courbe » gagnerait à ne pas être connue? L'expression « inverser la courbe » fait désormais partie du langage ordinaire. Je lisais récemment un article expliquant, je cite, que plus de 50% de l'humanité sera en surpoids ou obèse d'ici à 2035 si la courbe ne s'inverse pas. Fin de citation. Sans qu'il soit d'ailleurs précisé de quelle courbe il s'agissait. Chacun est bien sûr libre de parler comme il l'entend. Mais il y a tout de même là un petit problème. Petit problème qui tient au fait qu'on ne trouve cette expression « inverser une courbe » dans aucun ouvrage de mathématiques. Ce qui laisse penser qu'elle a été fabriquée de toutes pièces par quelques communicants désireux d'inventer une nouvelle novlangue. Et en effet, lorsqu'on effectue une recherche sur son origine, on découvre d'une part qu'elle a été inventée et médiatiquement promue en 2013, d'autre part qu'elle n'a longtemps été utilisée qu'à propos de la seule courbe du chômage. Reprenons le fil. En 2013, l'un des tubes médiatiques de l'été avait été l'amélioration de la situation de l'emploi, le gouvernement annonçant pour la fin de l'année l'inversion de la courbe du chômage avec l'assurance d'un astronome prédisant une éclipse du soleil. Par la suite, les chiffres du chômage avaient été commentés par les uns et par les autres en reprenant cette expression comme si son sens était clair pour tout le monde. On avait même assisté à un festival de poésie surréaliste avec des phrases comme « l'inversion de la courbe a pris du plomb dans l'aile » ou bien « le germe de l'inversion est en cours ». Eh ben oui, après tout, si une courbe peut s'inverser, un germe peut bien être en cours. Ensuite, on a eu « le pays n'est pas dans une optique tendancielle d'inversion de courbe » ou bien « nous visons une inversion durable de la courbe sans voir qu'une inversion qui dure trop, c'est une inversion qui peine à se faire ». Je me souviens surtout de ce petit chef-d'œuvre en matière de volapuque désintégré. Le redressement n'est pas terminé, mais le retournement économique arrive. Fin de citation. Je dois ici reconnaître mes limitations intellectuelles et avouer humblement que si on me dit d'un truc qu'il commence à se retourner alors même qu'il n'a pas terminé de se redresser, je me sens bien incapable de dire de quel truc il peut bien s'agir. Mais ce qui était assez bluffant, c'est que tous ceux qui prononçaient ces phrases donnaient l'impression de savoir ce que veut vraiment dire l'expression « inverser une courbe ». Réfléchissons tous ensemble. Inverser la courbe du chômage, cela pourrait consister à remplacer la fonction f de t correspondant à cette courbe par son inverse, c'est-à-dire par 1 divisé par f de t. Mais en l'occurrence, il ne saurait s'agir de cela. Nul n'ambitionne d'atteindre un nombre de chômeurs qui soit l'inverse du nombre actuel, puisqu'il n'en resterait alors qu'une fraction de millionième. Inverser la courbe du chômage ne peut tout de même pas vouloir dire couper en rondelles l'ultime chômeur. On pourrait aussi supposer qu'inverser la courbe du chômage, ce serait faire passer cette courbe par un maximum. En clair, ce serait finir par réduire le nombre de chômeurs. Mais alors, pourquoi ne pas le dire ainsi? Dans ce cas, inverser la courbe suppose de trouver le moyen de changer le signe de la dérivée première de la fonction correspondante. La courbe qui était depuis longtemps croissante deviendrait alors décroissante. Mais on peut aussi imaginer que le gouvernement d'alors se fût donné un objectif plus facile à atteindre, celui de simplement freiner la croissance du nombre de chômeurs. Le chômage continuera certes d'augmenter, mais moins vite qu'avant. Dans ce cas, c'est la dérivée de la dérivée qui devra changer de signe. Car nous sommes bien d'accord, avancer moins vite, ce n'est tout de même pas la même chose que reculer. En tout état de cause, l'expression « inverser la courbe » est d'une si grande imprécision sémantique qu'elle relève d'une sorte de bullshit, même si je sais bien que l'entretien délibéré du flou fait partie de l'agir politique. Dès lors que la cible est désignée de façon confuse, on peut prétendre à la fin qu'on l'a grosso modo atteinte, quoi qu'il se soit passé. Mais en la matière, il ne faut pas trop exagérer. Je vous propose de méditer ensemble cette phrase de Jacqueline de Romilly. La transparence des mots donne le même plaisir qu'une photographie bien mise au point. On reconnaît tout. Fin de citation et fin de chronique.
Fin de chronique jusqu'à la prochaine. Merci beaucoup Étienne Klein et merci à toutes et tous pour votre écoute. Un grand merci à toute l'équipe de La Science CQFD, Natacha Triou, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Natacha Demoul, Garance Prema Agnolo, Nafi Terrasse, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson. Vous pouvez nous réécouter sur le site de franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France et continuer de nous suivre sur notre compte Twitter à Science CQFD. On se retrouve bientôt et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.